Il est 6h.
Orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, dans cette séance, je vous propose la suite de mes développements sur les vertus. Puis, je recevrai le père Nicolas Tchernokrak ainsi qu'Oriane. Enfin, entre les deux, nous ferons une pause avec le merveilleux chant byzantin issu de la divine liturgie. La dernière fois, je vous ai parlé de la prudence, en montrant comment la prudence consiste à ne pas oublier la complexité des choses, à ne pas oublier la complexité des hommes, mais aussi conserver un sens de l'humour. Avec le courage, nous avons affaire à une autre vertu. Si la prudence permet d'aller de la terre vers le ciel, si la justice permet d'aller du ciel vers la terre, le courage est une faculté intermédiaire qui permet de relier la prudence et la justice et la prudence. Le courage vient de la notion de cœur. Et derrière cette notion, on a affaire à la vertu du guerrier qui est capable de maîtriser les passions et notamment la colère qui se trouve en lui. Le courage, toutefois, va plus loin et a une profondeur spirituelle que j'aimerais pouvoir développer avec vous. Le courage, je le mets dans l'ordre du savoir-faire. La prudence dans l'ordre du savoir-vivre et la justice dans l'ordre du savoir-être. Le courage est de l'ordre du savoir-faire. Pourquoi ? Parce que le courage est avant tout pratique. Il s'agit de faire. Et quand on fait, il s'agit non pas de faire un peu, il s'agit de faire tout. Et c'est ce qui caractérise le courage. J'ai un ami qui avait dit un jour, à propos d'un champion de tennis, qu'il était un champion non pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il était toujours bon. Eh bien, avec le courage, il en va de même. Qu'est-ce qui fait qu'on est courageux ? Ce qui fait qu'on est courageux, ce n'est pas qu'on fait face à la réalité pratique avec ses exigences, ses difficultés, ses combats, ses luttes, une fois. Mais qu'on fait face tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre. Je pense tout simplement au courage des mères de famille qui savent tenir leur maison, élever leurs enfants, tout en menant par ailleurs une vie professionnelle. Quel courage pour faire toujours face. Quel courage aussi, bien sûr, pour leurs maris, les hommes, de faire face également à la fois à leur vie professionnelle et en même temps à leur vie familiale. Et donc, il y a le premier courage réside dans le fait de faire face aux hommes et faire face à l'adversité et faire face surtout au temps. C'est ce qui permet de donner du sens au sens de la vie. Lorsque Albert Camus cherche le sens de la vie dans le mythe de Sisyphe, il trouve non pas le sens de la vie dans le sens, mais dans l'absence de sens. La vie a d'autant plus de valeur qu'on la vit non pas parce qu'elle a un sens, mais bien qu'elle n'en ait pas. Et c'est ce que Camus exprime admirablement quand, à la fin du mythe de Sisyphe, voici comment il conclut. Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui soulève les rochers. Cet univers sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette terre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il y a le combat face au temps, mais il y a aussi le combat face à l'adversité. Qu'est-ce qui fait qu'on est courageux face à l'adversité ? Ce qui fait qu'on est courageux, ce n'est pas qu'on brave le danger en étant téméraire, mais qu'on reste vivant et soi-même malgré le danger. La nuance est grande. Il arrive que souvent, on soit très intrépide pour braver le danger. Mais en fait, est-ce qu'on a surmonté la peur ? Non, on n'a pas surmonté la peur. On est en fait plein de peur, mais on masque sa peur derrière une attitude de bravade. D'où, je crois, la profondeur du code d'honneur des légionnaires qui explique qu'un légionnaire a comme mission de servir avec honneur et fidélité. Qu'étant son frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, chaque légionnaire lui manifeste toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Respectueux des traditions, attaché à ses chefs, la discipline et la camaraderie sont sa force, le courage et la loyauté ses vertus. Fier de son état, il est élégant et net dans sa tenue, digne et modeste dans son comportement. Faisant partie de l'élite, il s'entraîne avec rigueur en ayant toujours le sens de sa forme physique, sa mission étant sacrée. Il l'exécute jusqu'au bout, si besoin, au péril de sa vie. Au combat, il agit sans passion et sans haine, en respectant les ennemis vaincus et en abandonnant jamais ni les blessés ni les morts. Donc on voit quoi ? On voit que le courage est davantage une attitude à l'égard de soi qu'à l'égard des autres. Et ce qui fait que, par exemple, des pompiers sont capables de rentrer dans une maison en flammes, c'est qu'ils ne pensent pas à la maison en flammes. Il ne pense pas au danger. Il s'imagine toujours comme étant vivant. Et donc, ne faisant pas prise à la mort, ne laissant aucune prise à la mort, ils ont une force que ne donne pas la peur. On a raison de dire que qui craint la mort est déjà mort. Enfin, il y a un dernier élément qui caractérise le courage. Il s'agit ici du courage spirituel et pas simplement du courage pratique ou du courage moral. Le courage spirituel consiste à rompre avec la violence, la haine, la vengeance qu'il peut y avoir dans la communauté et qui est grande. Il s'agit ici, autrement dit, d'avoir le courage d'être seul. Nous sommes dans un monde plein de passions et dans ce monde plein de passions, on nous demande de prendre fait et cause pour tel ou tel camp. Il faut beaucoup de courage pour sortir de cette logique de camp où on se regarde et on se jauge pour savoir si tout le monde fait partie du même camp, en pensant que si quelqu'un hésite, il est un traître. Il faut, en quelque sorte, donner toute sa vie à tel ou tel camp, à telle ou telle idéologie. Et il est très remarquable de pouvoir résister à la tentation de la haine, à la tentation de la vengeance, à la tentation de la mauvaise parole, du mauvais esprit dans le cadre des divisions humaines. Je crois qu'il y a deux humanités. Il y a une humanité qui va au-dessus des partis pour voir l'essentiel qui peut exister chez tout homme. Et puis d'autre part, il y a malheureusement une autre partie de l'humanité pour qui on est un homme que si on obéit à tel ou tel critère. Rousseau regrettait que dans la société telle qu'elle est devenue, on est un homme, non pas parce qu'on est un homme, mais parce qu'on est riche, parce qu'on a du pouvoir et parce qu'on a de la notoriété. Je crois qu'il est magnifique de pouvoir résister à cette tentation qui consiste à honorer les hommes en fonction de leur courage, de leur notoriété, en fonction de leur richesse, en fonction de leur pouvoir et en fonction de leur notoriété, mais simplement parce qu'ils sont des hommes. C'est ça qui me paraît être très courageux. Rester vivant envers et contre tout. Rester humain envers et contre tout. C'était les sœurs du monastère d'Urmilia, près du Mont Athos, dans un hymne à la Mère de Dieu. Chers amis, la semaine dernière, nous avons eu le bonheur d'entendre parler de Saint-Séraphin de Sarov, cette église dont le père Nicolas, à mes côtés, est le recteur, église qui se trouve dans le 15e arrondissement à Paris, rue Lecourbe, et dont vous, Oriane, vous êtes l'une des paroissiennes. Ce qui est intéressant en vous écoutant parler de l'Église, c'est quand même le phénomène de la conversion que vous avez vécu et que vous vivez l'un et l'autre à des degrés différents. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion, cher père ?
Voilà, je pense que, cher ami Bertrand, tu connais le mot grec « metanoia ». Imaginez-vous que c'est le début de la prédication de Saint Jean-Baptiste, mais c'est la même phrase utilisée par le Christ. Voilà, convertissez-vous. Voilà, comment changer notre nous, comment découvrir notre nous, comment vraiment. Je pense que nous sommes tous convertis et nous nous convertissons tout le temps. C'est pas converti, n'est pas un acte une fois pour toujours, mais ça nous accompagne. C'est-à-dire découvrir cette présence de l'esprit, de l'intelligence, de notre vie personnelle. Donc, s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de créativité, il n'y a même pas de progrès. On se renferme dans nos mots, dans nos systèmes. Mais conversion, c'est vivifier la terre, qu'elle produit des bons fruits. Donc c'est ça la conversion. Donc, nous avons besoin de cette présence je dirais, j'aime beaucoup utiliser le mot l'esprit. Donc l'esprit qui est à la fois l'eau qui nettoie, mais aussi qui est la flamme qui réchauffe et qui illumine, n'est-ce pas? Donc je disais, comme disait ça l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Kyrios, Seigneur, si on ne dit pas en Esprit Saint. Tu vois, donc c'est cette présence de l'esprit dans notre vie chrétienne, dans notre spiritualité, spiritus, esprit, n'est-ce pas? Si on n'a pas cette flamme de l'esprit, je dirais, il y a quelque chose, on se dessèche, il y a quelque chose qui manque. Donc il n'y a pas d'éclosiologie sans pneumatologie, il n'y a pas de théologie sans l'esprit et de notre participation, je dirais pas dans cette spiritualité, mais à travers la grâce de Dieu, dans cette force qui nous vient de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas même dire notre Père quelque part si on ne le dit pas en esprit. Donc c'est très important. Donc, je pense que c'est ce chapitre de théologie dans la tradition patristique, n'est-ce pas, et même biblique, n'est-ce pas, est devenu la base de réflexion pour l'ecclésiologie, pour pneumatologie, pour triadologie. Donc on peut pas oublier cette dimension de pneumatologie.
Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Moi je vois deux choses dans la conversion. La conversion, ça me fait d'abord penser à Platon, qui explique que lorsque celui qui était dans la nuit aveuglé voit la lumière, ben il fait volte-face. Tout d'un coup, il se dit « Ah là, il faut que je change complètement. » Je croyais que le fait d'être complètement immergé dans le sensible, c'est ça la vérité. Et je m'aperçois qu'il y a autre chose qui revient de l'intelligence. Donc je change complètement mon intelligence. Mais je rajouterais une chose qui vient, c'est-à-dire une conversion. Je passe de la nuit à la lumière. Je me rends compte qu'il y a de la lumière. Je me rends compte qu'il y a des idées. Je me rends compte qu'il y a la pensée. Je me rends compte que c'est essentiel. Mais ce qui me paraît important, c'est de dire, attendez, ce qui est en jeu est absolument génial. Et voir les choses avec l'esprit, c'est de dire, mais vous n'imaginez pas l'intelligence qu'il peut y avoir dans la parole du Christ, dans la parole de la tradition, dans la parole des pères. Alors là, je crois qu'on est véritablement converti, c'est-à-dire avec un élan de joie, si vous voulez. C'est comme du feu qui coule, hein. Un feu extraordinairement joyeux, enthousiasmant. On pourrait dire ça.
Oui, tout à fait. Enfin, je dirais, notre tradition et lecture de textes de lecture sainte, je dirais presque de l'Ancien et du Nouveau Testament, la place de l'esprit, et c'est très importante, et justement, notamment, dans cette conversion de l'homme et de l'Église.
Donc, esprit que l'on peut définir comme la surintelligence.
C'est ça. Surintelligence.
Denis Rapigide parle du suressentiel.
C'est ça.
Parle de la surintelligence.
Voilà. Donc,
Berdiaïev parle de la surconscience.
Voilà. Donc, oui, mais je pense que c'est grâce à Dieu, je dirais, même dans notre théologie d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de travail. Et pas seulement à travers le texte biblique, mais aussi à travers la théologie qu'on appelle dogmatique ou dogme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la théologie adhère un peu dans cette dimension de la place de l'esprit dans la conversion, mais pas seulement dans la conversion, dans la vie. Voilà, notre vénérable père Séraphin, il parle de l'acquisition de l'esprit. Voilà, il faut vendre tout pour obtenir l'esprit.
Et alors on se souvient cet extraordinaire épisode avec Motovilov où tout d'un coup il voit l'Esprit Saint à travers le Père Séraphin et qui est plus blanc que le soleil, plus lumineux que la neige.
Et dans ce contexte-là, j'ajouterais simplement, Saint Séraphin lisait tous les jours la Bible. Il avait un petit sac où il avait un petit, il avait toujours la Bible avec lui et un petit, je sais pas quoi, un instrument pour couper les arbres desséchés. Mm-hmm. Voilà. Donc la conversion, évidemment, c'est une conversion véritable, donc de voir dans notre vie, dans notre spiritualité, comme on l'appelait, parce que c'est le sujet autour de la spiritualité, la place de conversion pour la spiritualité. Donc c'est une énergie, n'est-ce pas, qui nous renouvelle perpétuellement.
C'est comme ça que vous l'avez vécu, chère Oriane.
Oui. Moi, j'ai la phrase de l'Apocalypse qui dit « Souviens-toi de ton premier amour ». Et il y a toujours une première rencontre avec le Christ qui est vraiment la conversion initiale. Après, je pense qu'il y a des étapes avec des retraits tout paternels de Dieu en soi pour aller vers lui. Et il y a plein d'étapes comme ça. Maintenant, moi, j'ai envie de il y a plusieurs étapes de conversion qu'on vit tous. Donc, j'ai parlé des Écritures. Quand on traverse des deuils aussi, on a vraiment un cœur dilaté et on change. Et il y a vraiment une conversion par rapport aux épreuves de vie que sont le deuil. Mais j'ai envie de vous parler également de la première fois où j'ai été convertie. Parce que c'est quand même... c'est personnel, mais ça concerne tout le monde aussi. Chacun a une modalité différente. Et moi, ce qui s'est passé à l'époque, j'allais me marier et je n'étais pas ni baptisée, ni croyante, ni rien du tout. Et mon ex-mari me dit, on va quand même rencontrer un prêtre pour au moins avoir une bénédiction. Et puis j'accepte et je rencontre un prêtre américain qui était, que je n'ai pas du tout adhéré à ce qu'il disait. Je me dis, mais il raconte n'importe quoi, mais vraiment l'Église, j'ai raison, quoi. Et je sors de là et je vais dans un parc. Et là, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit juste ces phrases. Et si c'était vrai? Et là, il y a une espèce de tsunami qui est arrivé, d'envahissement même corporel, en fait, qui était vraiment l'expérience divine. Et c'est à partir de là où j'ai demandé le baptême. Et maintenant, donc il y a des années et des années qui se sont passées, j'ai toujours en esprit cette première rencontre. Et souviens-toi de ton premier. Et si c'était vrai? Voilà, juste cette petite phrase qui est au fond l'acceptation, l'abandon et le consentement. Voilà, et il y a quelque chose qui change tout. Après, voilà, encore une fois, comme je disais, il y a plein d'étapes. Donc, il y a la rencontre des Écritures à travers Saint-Serge. Il y a aussi le chemin de Compostelle que j'ai réalisé. Donc, dans ces pèlerinages, c'est là, il y a quelque chose qu'on vit qui est de se dire, au fond, Dieu, il s'occupe de tout, même de la clé perdue, même de l'aspirine dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment une expérience où, de nouveau, on consolide en fait cette idée de l'acceptation, de la confiance. Et après, tout est fluide, et même s'il y a des épreuves, évidemment, inhérentes à la vie, eh ben, on sait qu'il y a toujours... Dieu qui est là, la main de Dieu, la douceur du cœur de Dieu, la tendresse de Dieu qui est là, toujours.
Et alors moi j'ai ressenti quelque chose en tant qu'intellectuel. Un intellectuel, ça discute, ça analyse. Et je crois que je me suis vraiment converti le jour où j'ai arrêté de discuter. J'ai dit absolument oui. Et je me souviens, j'étais au Mont Athos et la montagne était flamboyante de lumière et de beauté. Merci beaucoup, cher ami. À bientôt.
Et pour finir cette émission, à nouveau, les sœurs du monastère d'Ormilia, près du Mont Athos, pour un hymne à la Mère de Dieu.
Dans un instant, Bérangère Loup vous présente la matinale du week-end.
Feeling. what you have. You've got to see it, to believe it, that you're rising like the summer moon. And I was restless too. You.